Le Mag Emploi, Pascal Conen sur Corbe FM.
Bonjour à vous tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Françoise Huette, donc directrice de l'IFPS, et Franck Cohen, directeur de l'IFA. Nous avons aussi la chance d'avoir Ambre et Valentin qui viennent de finir leur formation pour devenir ambulanciers, qui vont témoigner un petit peu de leur parcours. Alors déjà, Françoise, qu'est-ce que signifie le sigle IFPS ?
Donc il signifie Institut de formation aux professions de santé.
D'accord, ok. Et alors, autrement, donc, il y a deux autres sigles, pour bien que les gens comprennent. Il y a l'IFAS et l'IFA.
Alors, il y a l'IFAS et l'IFA, qui nous intéressent aujourd'hui, plus particulièrement. Donc, l'Institut de formation des aides-soignants.
D'accord.
Et l'Institut de formation des ambulanciers.
Ok. Alors, déjà un petit peu, bon, avant d'aborder notre sujet, pouvez-vous vous présenter et nous parler un petit peu de vos parcours professionnels ?
Oui, après avoir été infirmière dans une vie antérieure, j'ai eu tout un parcours dans le management, en encadrement de proximité d'équipe, puis en encadrement supérieur. Et en 2009, j'ai suivi la formation de directeur des soins à l'EHUSP à Rennes.
D'accord.
Et donc aujourd'hui, je suis directrice des soins.
Oui, donc un parcours très complet dans le médical.
Voilà.
Et Franck ?
En ce qui me concerne, j'ai un parcours relativement similaire, puisque comme il est de fait dans ces instituts, j'ai un parcours infirmier, puis ensuite je me suis spécialisé en anesthésie, ce qui m'a permis de travailler dans les blocs opératoires et SAMU. Puis ensuite, j'ai eu aussi un parcours managérial.
D'accord.
Et en fait, durant ce parcours managérial, j'ai eu l'occasion de mettre en place avec un médecin le centre d'enseignement des soins d'urgence. Et ça, voilà, je suis tombé dans le chaudron quand j'étais pas trop petit. Donc, du coup, j'ai fait un master d'ingénierie de formation, puis un parcours à Sciences Po, leadership et management du complexe, qui me permet d'arriver aujourd'hui dans cet institut.
D'accord, ok. Alors, l'IFPS a été créé en quelle année ? Et ça se situe où, sur Saint-Brieuc ?
Alors, l'IFPS, je vais dire historique, la toute première création, c'est 1931, c'est l'école d'infirmières.
D'accord, ok.
Parce
oui,
qu'il n'y avait pas, la profession aide-soignante n'existait pas encore. Et donc, au fil des années, il était à l'intérieur du centre hospitalier de Saint-Brieuc. Puis au fil des années, la formation s'est étoffée. En plus de la formation infirmière, il y a eu l'intégration de la formation aide-soignante en 1997.
D'accord.
Puis en 2010, l'intégration de la formation continue et de la formation ambulancière.
D'accord, ok. Donc,
et aujourd'hui, l'IFPS se situe sur le campus Mazier, de place des prix Nobel à Saint-Brieuc.
D'accord. Alors, au niveau de l'IFA et de l'IFAS, vous avez combien d'étudiants par an à peu près ?
Alors, il faut compter qu'en fait, sur l'IFAS, sur des habilitations, des agréments hein, qui nous sont donnés par le Conseil régional. C'est revu tous les 5 ans. Actuellement, d'ailleurs, on est en train de revoir justement ce schéma de la formation, de l'offre de formation sur la région. Et donc, nous, pour l'instant, sur l'IFAS, donc pour les aides-soignants, 53 élèves. Hein, on a une habilitation pour 53 élèves. Mais on peut aussi accueillir des personnes qui sont sur des cursus de VAE, hein, validation des acquis de l'expérience. Et en ce qui concerne l'IFA, pour les ambulanciers, on a une habilitation à 45 pour 45 élèves.
D'accord.
Et plus des formations aussi d'auxiliaires ambulanciers. Et nous en formons environ une trentaine par an.
Ok. Les formations se font sur combien de temps ?
Alors, les formations, en fait, elles se font pour les aides-soignants. Il faut compter 44 semaines, c'est-à-dire 22 semaines de cours, 22 semaines de stage. Alors, avec la possibilité aussi de ce qu'on appelle le cursus partiel, hein, mais là, on étudie les dossiers. Il y a ce qu'on appelle les entretiens de positionnement où le candidat vient se positionner sur les compétences qu'il aurait pu acquérir au travers d'une formation en santé.
D'accord.
Et donc, on étudie avec lui la possibilité d'aménager ce parcours. Et pour les ambulanciers, c'est tout récent, hein, ça vient de tomber. On aura la première
session
d'un diplôme réingénierier, pour parler dans le jargon de la pédagogie. Et là, on a une formation qui va se faire sur quasiment 6 mois, 23 semaines de cours et 7 semaines de stage, avec aussi cette possibilité de faire des cursus partiels.
D'accord, ok. Alors justement, quels sont les critères obligatoires qu'un étudiant doit avoir pour entrer dans votre formation ? Les diplômes, les niveaux scolaires, comment ça se passe à ce niveau-là ?
Alors, Déjà, par rapport à votre question, le statut de ce sont des élèves dans nos instituts, puisque le statut d'étudiant est réservé à l'enseignement supérieur, ce qui n'a en rien de péjoratif. Hein. Et donc, en fait, pour pouvoir passer les épreuves de sélection, c'est un peu le même schéma. C'est toujours comment on prépare un dossier qui est constitué d'une lettre de motivation, d'une présentation d'un parcours professionnel ou on décrit une situation de soins et entretien avec un jury, hein, c'est ce qu'on appelle l'admission. Pour les ambulanciers, la particularité, c'est que ça se situe en deux temps bien différents, voire même trois temps, puisque pour entrer dans un institut de formation ambulancier, il faut un stage pré-professionnel de 70 heures. Et d'ailleurs, c'est ce stage pré-professionnel de 70 heures qui sera exploité pour la présentation du projet et durant l'entretien. Et en fait, il n'y a pas d'exigence de diplôme, hein, il n'y a pas de niveau exigé, ce qui n'empêche qu'on a toutes sortes de qualifications, de diplômes, voire d'expériences. Hein, donc c'est très intéressant.
D'accord. Et alors, pratiquement, les formations se passent comment ? Il y a une partie théorique, une partie pratique ?
Alors, ce sont des formations adultes. Hein, donc c'est des formations qui sont organisées par alternance au sens de j'alterne à la fois les enseignements qu'on appelle théoriques et pratiques, hein, c'est-à-dire dans des salles de simulation où on va jouer un certain nombre de situations, dans des salles de travaux pratiques où on va travailler sur des mannequins. Donc on a cette première partie-là. Et l'autre partie, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les enseignements cliniques qui sont plutôt orientés vers les stages.
D'accord, ok. Et au niveau des stages, comment ça se passe ? Est-ce que les élèves ont des tuteurs au sein des différents services ?
Alors le tutorat, c'est intéressant votre question, parce qu'en fait le tutorat, en tout cas pour les formations AS et ambulanciers, viennent d'entrer en fait dans la réglementation, dans les textes. D'accord. On a enfin reconnu cette, même si c'est une formation par pair, hein, vous avez vu, depuis le 20e siècle, on est formé par nos pairs, même avant d'ailleurs. Et en fait, ça vient d'être reconnu dans les textes à la fois ambulanciers et dans les textes aides-soignants, et donc est en train de se développer, puisqu'elle existe déjà, mais de s'officialiser avec des formations à la clé de tuteurs, justement pas au niveau des stages. Au niveau de l'institut, chaque élève a ce qu'on appelle un référent pédagogique qui va le suivre durant sa formation.
Oui, c'est quelquefois plus sécurisant aussi pour les élèves, et puis ça permet d'être davantage un petit peu. Il y a une bienveillance qui s'installe quelquefois quand c'est comme ça.
Ça
donne des points de repère.
Surtout que c'est des formations adultes, on a beaucoup de reconversions professionnelles. Ouais. Donc il peut y avoir justement cette maturité d'allure, certes, mais l'insécurité qui est généré par le fait d'entamer une reconversion, ce qui fait tout l'intérêt de notre travail, et puis je pense le plaisir aussi des élèves de se sentir accompagnés dans ce projet.
Oui, le processus de formation est de toute façon souvent s'accompagne d'une certaine insécurité à un moment donné, puisqu'il faut lâcher à un moment donné ce que l'on connaît pour aller vers demain. Et donc, effectivement, c'est ça qui peut générer un peu de stress chez nos élèves, nos apprenants. Et donc, tout le suivi pédagogique va être là aussi pour réassurer et pour accompagner.
C'est bien ça. Alors justement, quels sont les profils des personnes qui frappent à votre porte ? Ce sont des jeunes, des personnes en reconversion ?
Alors, les jeunes... en fait, la moyenne d'âge de nos promotions, que ce soit pour l'IFAS comme pour l'IFA d'ailleurs, hein, c'est, la moyenne d'âge est plutôt assez élevée par rapport à des formations, comme la formation infirmière, où la moyenne d'âge est plus basse. Là, on a des moyennes d'âge qui tournent entre, on va dire, 28 et 32 ans, en fonction des promotions. D'accord. Donc, on voit que ça peut être, hein, puisque vous avez des gens qui sortent du bac, sauf pour les ambulanciers, puisqu'il faut avoir 3 ans de permis, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. et en fait, c'est des formations qui sont souvent, pour les aides-soignants, un prolongement, c'est-à-dire ils sont agents de service, ou ils entament une reconversion venant de l'agroalimentaire, du secteur bancaire, du commerce, ou sortent de formation universitaire, hein, ça arrive. Idem pour les ambulanciers, c'est quasiment les mêmes profils. Hein. Donc c'est-à-dire que c'est souvent des formations on va dire d'un deuxième tiers, voire d'une deuxième partie de carrière en fonction des profils.
D'accord, ok.
Alors il y a aussi nos jeunes qui sortent directement du bac, quand même il y en a quelques-uns, oui, pour les aides-soignants.
C'est soignant.
Et qui ont préparé des bacs ASSP ou SAPAT, qui sont très souvent déjà tournés dans l'aide
système,
à la personne.
On va dire, déjà un peu plus dans ce genre de choses.
Oui, la moyenne c'est 28 ans, mais en fait on va de 18 à, on est allé jusque 56 ou 57 ans sur l'IFA. Oui, bien sûr.
Ok.
Tout à fait.
Comme quoi, hein,
c'est jamais... Ah oui, il n'y a pas de souci. Et c'est des métiers, c'est des gens qui ont pratiqué leur métier.
Ouais, c'est bien.
Non, c'est très intéressant.
Ouais. Vos métiers sont des métiers qui sont avant tout humains. Vous êtes en proximité constante avec vos patients. En plus des critères obligatoires pour entrer chez vous, quelles sont les qualités et motivations que vous attendez chez vos étudiants?
Alors,
chez
vos
élèves, pardon.
Ce serait peut-être un peu... surfait de faire une liste,
oui,
hein, de qualité. Enfin, voilà, il n'y a pas de surhomme ou de surfemme dans les métiers du soin. Et on a plutôt coutume de dire, un peu comme dans une chaîne de fast-food, venez comme vous êtes et nous vous accompagnerons à faire avec vous pour aller vers les autres.
D'accord.
C'est-à-dire que chacun vient, mène son projet et il a tout le temps de cette formation et c'est cet accompagnement humain qui est en tout cas vraiment un point fort, en tout cas dans notre institut, pour justement permettre à chacun à apprendre avec ce qu'il est pour aller vers l'autre. Voilà, c'est vraiment ouvert à beaucoup de gens. Quoi.
Il n'y a pas de profil type.
Non, faut sortir de ça.
Enfin, je pense qu'il faut avoir envie d'aller vers l'autre, de s'inscrire dans une dimension d'aide à la personne, et puis aussi avoir envie de travailler en équipe. C'est pas un travail solitaire, c'est un travail en commun. Au service des usagers, et donc de prendre soin.
Ok. Vos filiales sont plutôt féminines, masculines?
On est pour les ambulanciers, on est à 44%. Je regarde encore les chiffres régionaux avant de venir. Pour les IFAS, on est à 94% de dames et 6% de messieurs.
D'accord. Ok.
Mais pour les ambulanciers, on est à la parité. On est quasiment à la parité. Hein. C'est très intéressant de voir que ce sont des métiers qui se féminisent avec.
Et puis une mixité, c'est toujours
avec une grande mixité qui est appréciée d'ailleurs.
Chacun apporte un petit peu certaines choses à l'autre.
Complètement.
Tout à fait.
C'est toujours bien.
Oui. Tout à fait.
Les diplômes obtenus en fin de parcours sont valables sur tout le territoire national?
Oui, ce sont des diplômes d'État. Ils sont même reconnus d'ailleurs au niveau européen, quelquefois sous réserve de passer des examens, enfin, ou de passer en commission.
D'accord.
Okay. Non, ce sont des diplômes d'État.
D'accord. Et alors, le financement des formations, ça se passe comment pour vos élèves? C'est eux qui financent et voilà.
Alors, au niveau de la pédagogie, le conseil régional finance la pédagogie.
D'accord.
Ça veut dire que c'est déjà beaucoup. C'est vrai qu'au niveau de la région Bretagne, il y a vraiment une volonté de s'inscrire dans cette dimension d'accompagnement des jeunes et des moins jeunes dans ce parcours professionnel. Après, il peut y avoir des gens qui sont en reconversion et qui donc vont solliciter des organismes comme ce qu'on appelle les OPCO. Et puis, chez les ambulanciers, il y a aussi les employeurs. Il y a les financements employeurs. C'est pour vous donner un petit peu
de diversité. Oui, mais c'est bien d'avoir les différents schémas.
Et puis... le taux financement chez les ambulanciers, puisque c'est possible. Mais avec, je serais tenté de dire, l'avènement du CPF, on arrive, grâce à un travail de notre responsable administratif, de justement minimiser cet impact financier pour l'élève, hein, parce que
c'est
quand même plus de 3000 euros, hein, une formation d'ambulancier. Donc, avec la mobilisation du CPF, on a réussi à réduire sacrément l'engagement financier des élèves.
Ça,
c'est important.
Ouais. À la fin du parcours, quel est le taux de réussite
dans les
différentes filières?
ça oscille, on va dire, entre 80 et 95%. Mais ce qui est plus important à dire, je pense, c'est qu'en fait, nous amenons quasiment 100% de nos élèves à la diplomation. Je m'explique. En fait, c'est pas parce que on va devoir entamer un redoublement qu'en fait on sera en situation d'échec. C'est-à-dire on est en formation adulte, on positive le dirons-nous la non réussite, en tout cas la non réussite immédiate. On a quelquefois besoin d'un petit peu plus de temps. C'est pas nécessairement simple de se remettre sur les bancs de l'institut.
Facile,
Et donc en fait, vraiment notre point fort, moi j'aime bien dire, en fait, on accompagne 100% des gens à la diplomation. On a quelquefois quelques arrêts pour des raisons d'orientation ou malheureusement quelquefois de maladie. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, dans cet institut, on a à cœur d'amener 100% de nos élèves à la diplomation. Pas nécessairement tout de suite, mais en tout cas, on les amène.
Petit,
et ça, c'est important.
Oui, il faut savoir parfois laisser du temps au temps.
Oui, voilà. C'est vrai, c'est important.
Oui, oui.
Nous sommes aujourd'hui avec Françoise Huette, directrice de l'IFPS, et Franck Cohen, directeur de l'IFA. Alors, ils sont accompagnés par deux personnes aujourd'hui, qui sont Ambre et Valentin, qui finissent leur parcours pour être ambulanciers. Et donc, ils vont nous parler un petit peu de leur parcours, comment ils fonctionnent et qui ils sont. Alors, déjà un petit peu, avant de devenir ambulancier, enfin de faire ce parcours, qu'est-ce que vous faisiez?
Je commence. Alors du coup, moi j'ai un parcours plutôt dans le commerce, mais à la base je suis diplômée, je suis mécanicienne cycle et motocycle.
D'accord.
Donc je réparais les motos et les vélos.
D'accord, ok. Et pourquoi un petit peu avoir changé de, si je peux me permettre?
Oui, bien sûr. En fait, à côté de ça, je suis sapeur-pompier volontaire à Binic.
D'accord.
Et c'est vrai que le côté secours à la personne, prise en soin, bah, ça me plaisait beaucoup. Et donc, j'ai cherché voilà, un métier qui s'en rapprochait et je suis tombée sur la formation d'ambulancier.
D'accord.
Voilà.
Ouais,
c'est donc... comme ça que je me suis lancée.
Ok.
Ouais.
Comment s'est passée votre intégration? Puis on viendra...
L'intégration au sein de l'école?
Oui.
Ouais, bah, c'est franchement, c'est bien. C'est, alors, c'est vrai que c'est assez court. On est la formation la plus courte, nous, dans l'institut. Mais par contre, on est intégrés comme les autres. On a les mêmes enseignants. Enfin, voilà, il n'y a pas de différence. On est très bien intégrés.
D'accord. Donc, ça se passe bien, quoi.
Oui.
Donc, à vous, maintenant, un petit peu la même chose. Vous venez d'où, en fin de compte, par rapport à ça?
Eh bien, moi, avant de commencer cette formation, j'étais joueur de hockey sur glace. Professionnel.
D'accord. Ok.
Donc,
ah oui, donc rien France à voir avec.
et en Amérique du Nord il y a quelques années.
D'accord.
Et c'est vrai que sur le côté, j'ai toujours voulu faire un métier un petit peu comme ça, de soins et de secours à personne. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a poussé à me lancer.
Ouais, c'est marrant. Voilà. Et pareil, votre intégration, comment ça s'est passé au sein de l'école?
Bah, comme a dit ma collègue, ça se passe très très bien. C'est vrai que c'est assez court pour s'intégrer, mais je pense que si on est dans ces filières-là aussi, c'est qu'on est des gens qui s'intègrent assez vite.
Assez vite, ouais.
Et je pense que ça fait un beau mélange et c'est plutôt simple de s'intégrer.
Il y a une réelle motivation, une réelle envie, quoi.
Ouais, donc, exactement.
Automatiquement, c'est vrai que c'est quelquefois plus facile. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des personnes qui recherchent un emploi pour les inciter à venir à l'IFPS, justement?
Déjà, il y a du boulot.
Ouais, il y a beaucoup de boulot.
Non, en vrai, on est sollicité avant même la fin de la formation, donc voilà. C'est des métiers, moi, je trouve qu'ils sont humains. Ouais. Voilà, si on cherche en tout cas un sens à son métier, bah voilà, les métiers du
sens,
soin. Voilà. Moi, en tout cas, j'y trouve un sens.
C'est vrai que c'est... Il faut être motivé, c'est sûr. Il faut avant tout aimer l'humain. Mais voilà, c'est un métier très enrichissant. Il n'y a pas de routine, il n'y a pas de choses comme ça. C'est si vous aimez l'humain et le secours aussi pour nous, notre formation, c'est top.
C'est du bonheur, quoi.
Mmh. Exactement.
Bon, bah super. Merci pour votre témoignage.
Merci à vous. Ouais.
Alors, on va reprendre un petit peu maintenant avec Françoise et Franck. Est-ce qu'il y a des ponts possibles entre une formation d'aide-soignante et une formation d'infirmière?
Alors, pour l'instant, la voie d'accès, elle est via Parcoursup. Donc, si vous avez vous êtes bachelier, ben, vous pouvez reprendre l'accès. À partir du moment où vous êtes aide-soignant, vous pouvez repasser par l'accès Parcoursup. Mais il existe une deuxième voie qui est très intéressante, qu'on appelle la voie de la formation professionnelle continue. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que 25% des places dans les IFSI, les instituts de formation en soins infirmiers, sont réservées justement à la voie professionnelle continue, qui est ouverte, en fait, à toutes les personnes qui ont cotisé 3 ans minimum à un régime de protection sociale à la date de l'inscription aux épreuves. Donc là, il y a des épreuves de sélection, il y a une épreuve, la première épreuve, c'est un entretien portant sur l'expérience professionnelle du candidat, et une autre partie de l'épreuve, qui est une épreuve écrite, qui elle, est composée de deux sous-épreuves, calcul simple, niveau 3e, donc conversion, règle de 3, hein. Et puis les opérations de base. Et puis la rédaction est, dirons-nous, d'un petit texte par rapport à un sujet qui est donné ou un texte même. Voilà. Donc il y a des possibilités, en fait, quand on était soignant. Si on est bachelier Parcoursup, si on n'est pas bachelier, on cotise 3 ans et
d'accord.
On peut repasser d'autres épreuves.
D'accord.
Et après, à l'intérieur du dispositif de formation, ces professionnels bénéficient d'une étude approfondie de leur parcours et du dossier et peuvent demander des dispenses d'unités d'enseignement.
D'accord.
Donc ils n'ont pas forcément à tout repasser, notamment la première année. Et ce qui leur permet aussi de pouvoir bénéficier d'un temps supplémentaire pour pouvoir se remettre dans la dimension d'études.
L'intérêt aussi, c'est que pour l'IFA, C'est-à-dire que les LIFA, dirons-nous, quand on a un diplôme d'état d'ambulancier, ça offre en fait les mêmes possibilités.
Les mêmes possibilités.
Oui, si vous êtes bachelier, ben vous prenez la même voie de Parcoursup, et si vous n'êtes pas bachelier, vous travaillez 3 ans et vous avez possibilité, ce qui se fait. Hein.
On a eu, c'est bien. Ça permet quand même de s'ouvrir sur plein de choses derrière.
Ah, c'est pas du tout figé.
Non,
pas du tout.
D'accord. Est-ce que, comme dans beaucoup d'activités professionnelles, il y a des nouveaux métiers ou des nouvelles filières qui vont comment émerger dans votre activité?
Alors, peut-être sur les métiers, on va peut-être commencer par le métier d'aide-soignant. Plutôt que de parler de nouvelles filières, je pense qu'on peut plutôt parler de renforcement des compétences, voire de développement de nouvelles compétences.
D'accord.
En fait, il y a un référentiel qui vient de sortir sur la formation aide-soignante, qui est sorti en 2021, qui était très attendu, ça faisait 14 ans qu'on attendait. Et en fait, ce référentiel, dirons-nous, apporte, donne, permet... ouvre à plus d'autonomie pour l'aide-soignant, l'aide-soignante. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas entré dans le détail du texte, mais on voit bien qu'il existe aujourd'hui des soins qui peuvent être classés comme soins courants et soins critiques. Et en fait, les soins courants, on a une marge d'autonomie maintenant beaucoup plus importante pour les aide-soignants, avec, dirons-nous, l'acquisition, et donc du coup pour nous l'enseignement de nouveaux gestes et soins, comme la glycémie capillaire, les soins sur les stomies, qu'elles soient colostomie, gynostomie. Vous pouvez avoir aussi sur l'aspiration sur des orifices de trachéotomie à partir du moment cicatrisé. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails.
Mais en tout cas,
il y a cette ouverture. Donc ça, c'est très intéressant, puisqu'on ouvre un champ de collaboration bien plus importante, qui était déjà important entre l'infirmier, l'infirmière et l'aide-soignant, l'aide-soignante. C'est pour ça qu'on parle souvent de binôme IDE-AS. Et en fait, il se consolide. Donc, plutôt que de parler de métier émergent, on va plutôt parler de consolidation et d'enfort des compétences. En ce qui concerne les ambulanciers, on a ce même phénomène, même si on n'a pas le même binôme historique avec l'infirmière, mais on a une grande interprofessionnalité aussi hein, pour les ambulanciers. Et avec le nouveau référentiel, on voit que ce référentiel, il va faire une place beaucoup plus importante pour les ambulanciers dans ce qu'on appelle à la fois le secours à personne, puisque leurs compétences vont augmenter, l'électrocardiogramme, la glycémie capillaire, les mêmes soins que l'aide-soignant, là, dont je vous parlais. Et aussi avec quelque chose, parce qu'on parle beaucoup d'urgence, mais c'est aussi un métier de l'accompagnement. Il y a quand même beaucoup de transports qui sont programmés avec des personnes qui sont, dirons-nous, soit âgées ou qui souffrent des pathologies qui rendent les gens, qui donnent quelques impotences. Hein, donc, ça nécessite un savoir-faire professionnel des accompagnés. Donc, il y a un module qui vient d'être ajouté à la formation, justement, en lien avec ça. Donc, on est plutôt dans des renforts de compétences.
Voilà.
Sur les ambulanciers, l'évolution du secours à personne est en train de, dirons-nous, d'avancer à une certaine vitesse. Je ne sais pas si vous avez vu, avec la loi Matras, il y a des choses qui sont en train de se redessiner au niveau de la mobilisation des différents acteurs de l'urgence dont font partie les ambulanciers. Et on voit que leur place va grandissante dans ce spectre des acteurs, et donc de cette interprofessionnalité, de cette collaboration. Et c'est pour ça qu'au sein de nos instituts interviennent à la fois des médecins du SMUR, des ambulanciers du SMUR, des ambulanciers privés et aussi des sapeurs-pompiers professionnels. C'est histoire aussi de travailler toute cette interprofessionnalité qui est grandissante.
Il y a vraiment une montée en compétences.
Oui, il y a une montée en compétences. Et dépasser ce sentiment un petit peu qu'il y avait eu de concurrence blanc-rouge. Il y a quelque chose qui est en train vraiment de très intéressant de se développer au niveau de
ça va dans le bon sens.
Du secours à personne. Et puis je vous dis aussi ce qui est important, c'est dans ce champ qui est de l'accompagnement, l'ambulancier va être, et l'ambulancière bien sûr, sont reconnus en tant que tels. On a comment des enseignements en lien avec l'aide à la marche. Ça peut paraître complètement accessoire, mais non, pas du tout. Quand vous avez quelqu'un qui a des difficultés à se déplacer, ça vous permet peut-être de faire un petit bout de kiné avec cette personne. Donc c'est pas donner à n'importe qui d'aider quelqu'un à marcher. Il y a une technique,
gestes,
ça s'apprend.
Les bonnes techniques, les bons gestes, c'est important.
Ils font partie de l'équipe de soins. Pour moi, c'est le premier maillon à un moment
donné. Ça responsabilise complètement les gens. Et comme vous dites, c'est vraiment un travail d'équipe, là, ensemble.
Complètement.
Alors, nous entendons régulièrement dans les médias que les métiers de la santé sont des métiers durs, avec des contraintes. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des personnes se dirigeant vers cette filière pour les rassurer?
Alors, je dirais que, certes, ce sont des métiers exigeants, très exigeants, par par différents aspects, que ce soit les contraintes en lien avec des horaires atypiques. Le travail peut être le jour, la nuit, les week-ends, les fériés. Effectivement, ça a un impact aussi sur la vie, je dirais, personnelle, hein, un retentissement. Mais avec aussi des responsabilités qui vont grandissantes. Hein. Franck nous a bien expliqué combien la montée en compétences faisait que derrière, il y a aussi toute une part de responsabilité qui augmente. Mais en fait, ce sont des métiers qui apportent énormément. Qui apportent énormément dans la dimension relationnelle, humaine, ne serait-ce que par la satisfaction de l'aide apportée à l'usager. Le fait de cueillir un sourire quand vous avez fait une toilette et que la personne se sent bien, je veux dire, quel meilleur... Mais il n'y a pas de meilleur remerciement. Ouais, c'est la plus belle récompense qu'en tant que soignant, on peut recevoir. Avoir, hein. Très sincèrement. Donc, effectivement, c'est exigeant, mais il y a de très belles choses qui se passent. Et en plus, ce sont des métiers qui sont en constante évolution. Là, Franck nous l'a expliqué avec les réingénieries, les nouvelles compétences. Et en plus, dans un parcours professionnel, vous pouvez, sans vous lasser, évoluer tout au long de votre carrière en changeant de secteur et vous apprenez de nouvelles techniques, de nouvelles compétences. Vrai. Et du coup, derrière, vous avez un parcours
c'est très riche,
et diversifié. Donc, je dirais, dans quel métier, dans quelle profession on peut se dire ça au démarrage.
Au démarrage, c'est clair. Ouais.
Voilà.
Et justement, pour aller dans le sens de ce que dit Madame Huet, c'est qu'en fait, les professions en santé, même si elles traversent de grosses turbulences, hein, on n'est pas sans le savoir et on ne va pas se voiler la face, hein, c'est une réalité, même si elle apporte énormément de choses. Et d'ailleurs, je pense qu'on est deux témoins aussi de tout ce que ça peut apporter. Il y en a bien d'autres, vous en avez eu deux autres ici. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, la réforme des diplômes fait qu'en fait, vous avez des systèmes qui sont par bloc de compétences. Et ce qui fait qu'en fait, un bloc de compétences est valable pour d'autres formations. Ce qui fait qu'un ambulancier peut prendre ce qu'on appelle la passerelle et devenir aide-soignant avec des dispenses de blocs de compétences, de modules. Enfin, c'est un petit peu technique, mais en tout cas, c'est facilité. Hein. Les réingénieries font pour que ce soit facilité. Donc, vous avez en fait des possibilités entre, par exemple, ambulancier vers aide-soignant, aide-soignant vers ambulancier, vers assistant de régulation médicale, vers accompagnement éducatif et social. Enfin, vous avez toute une possibilité d'évoluer, de cheminer dans les professions en santé. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'au travers même de petits témoignages tout à l'heure, vous voyez, il n'y a pas une carrière qui se ressemble.
Non, c'est ça.
Et c'est vraiment... Chaque professionnel peut faire sa carrière. Et je serais tenté de dire... Presque. Alors, il y a le gré des opportunités, mais en tout cas, en ce moment, avec l'employabilité dans le monde de la santé, on peut faire quasiment au gré de ses souhaits.
De ses souhaits, c'est ça.
Oui, on peut. En tout cas, il y a le champ de la mutation, de l'évolution. C'est quand même quelque chose d'important à souligner. C'est vraiment très important à souligner. On passe un moment difficile, mais on tend les voiles et on espère que ça va passer. Quoi. En tout cas, les voiles sont assez solides.
Oui. Alors, on y croit.
Il faut. Justement, vous avez déjà un petit peu répondu à la question, mais vous qui êtes dans ce métier de la santé depuis déjà quelques années, qu'est-ce qui vous donne encore l'envie de vous lever le matin pour aller bosser ?
Participer à la transmission des savoirs, préparer l'avenir, accompagner nos jeunes professionnels dans leur projet, justement, dans le projet de rendre service aux usagers au quotidien. Innover aussi, c'est un métier extraordinaire parce que en fait, tous les jours, en échangeant,
on s'ennuie pas, c'est jamais figé.
C'est jamais figé et je veux dire, c'est la porte ouverte à qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait faire, enfin essayer d'innover, d'inventer, de créer.
Ouais, il y a un côté
donc
créatif
en fait, donc c'est passionnant.
C'est très riche et très passionnant.
Ouais, moi je reprends souvent, vous savez, Christophe Dejour, avec la souffrance au travail, là, qui parle de l'utilité et de la beauté. Et ben, on a cette chance d'avoir dans ces métiers à la fois et c'est ce qui nous fait lever le matin, l'utilité et la beauté. C'est pas donné à tous les métiers d'avoir ces deux aspects. Ouais. Alors, effectivement, c'est très agréable, c'est très... Nous aussi, on a notre reconnaissance, hein, quand vous voyez même des joueurs de hockey professionnels grandir, c'est quand même... c'est quand même chouette. Voilà, il y a un moment où il se passe quelque chose, c'est pas toujours simple pour eux, il y a...
Puis l'avantage, c'est d'avoir des gens qui ont des parcours très différents, qui vont venir aussi apporter quelque chose de différent aussi au niveau de l'équipe, au niveau du... Donc c'est bien.
Il y a un petit peu aussi de douleur quelquefois dans la formation, ça arrive, hein, donc on a notre côté soignant, on a nos antalgiques de près, et ça se passe bien. Voilà, donc ça fait beaucoup de plaisir de voir des gens retrouver le sourire quelquefois après une session qui s'est pas bien passée, et puis de les voir après exercer, de les voir arriver en tenue, chercher, se faire payer un café dans le bureau, enfin voilà.
C'est top, ouais.
Ouais, c'est vraiment...
Je pense que l'Institut reste leur institut, ils le savent, et très souvent on a des étudiants ou des élèves qui reviennent nous voir, nous donner de leurs nouvelles.
C'est bien.
Et
c'est
nous, ça nous fait vraiment plaisir, parce qu'en fait, on les voit continuer de grandir, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est merveilleux, ça,
Et on forme nos collègues, En fait, c'est vraiment un métier très intéressant parce qu'on ferme, comme on leur dit souvent à la fin quand on remet les diplômes, on vous a vu entrer comme élève, voire comme candidat, et on vous voit sortir comme professionnel, nos collègues en fait. Donc c'est vraiment, c'est chouette.
C'est gratifiant quand même.
C'est gratifiant pour eux et puis pour nous aussi, bien sûr.
Comment voyez-vous l'avenir et l'évolution de vos métiers dans les 20 prochaines années à peu près?
Ça va vite.
Ça va vite. Enfin, les choses s'accélèrent. Enfin, j'ai l'impression que dans beaucoup de domaines, ça va très vite. Il y a des mouvements qui sont en lien aussi avec les évolutions, notamment de la démographie médicale. Le désir aussi des professionnels d'évoluer, les possibilités qui sont ouvertes. Donc du coup, ça va très vite. Et puis tout l'avènement aussi des nouvelles technologies avec la possibilité de rentrer en communication à distance.
Oui, il y a ça aussi.
Il y a des vecteurs qui sont extraordinaires aujourd'hui. On est en train de réfléchir à la télérégulation. Enfin, c'est quelque chose de... Donc je ne sais pas, Franck, si tu veux en parler.
Dès la rentrée, on travaillera, le conseil régional nous a accordé un financement supplémentaire pour développer l'enseignement de la télérégulation pour les ambulanciers, en l'occurrence, puisque, je ne sais pas si vous avez fait attention, un certain nombre de professionnels de l'urgence sont dotés maintenant de tablettes et télétransmettent directement les données, que ce soit un électrocardiogramme, une prise de tension, une mesure de l'hémoglobinémie, enfin vous savez, le sang, de la glycémie. Donc, oui, alors c'est pour ça que vous disiez ça va vite, mais ça va vite. Pour ça, dans 20 ans, c'est difficile de s'imaginer. Mais à 5 ans, je serais tenté de dire, on voit bien qu'on a des métiers où on a une autonomie développée, une connectivité plus forte. Mais ce qu'il y a d'intéressant, et c'est là toute la vigilance de notre travail, c'est vraiment de sécuriser l'approche humaine du soin. C'est pas parce qu'on va vite qu'on doit faire n'importe quoi. C'est un peu le risque. Et c'est justement important. Où quelquefois, vous voyez quelques soignants un petit peu freiner des cas de fer en disant doucement, c'est bien la connectivité, c'est bien les tablettes. Quand on met la tablette devant le nez, il y a un patient derrière la tablette. Ça s'apprend. Utiliser une tablette, ça s'apprend. Avant, vous aviez un porte-document là pour écrire dessus. On apprend à laisser le porte-document à un endroit, s'occuper de la personne, faire son bilan. Et une tablette, c'est pareil. C'est pas parce qu'on est connecté qu'on doit aller plus vite pour aller plus vite. Si ça permet de gagner du temps pour la personne, parce que l'électrocardiogramme est transmis, enfin télétransmis rapidement à un médecin régulateur qui puisse dire OK, il y a un problème, on y va. Ça, c'est intéressant. Mais nous, notre travail, c'est de bien faire attention que la connectivité, elle ne doit pas altérer la sécurité.
Et je crois que vraiment dans nos métiers, mais depuis la création de nos professions qui remontent très loin au Moyen-Âge, puisque avant c'était les infirmières, et c'était des sœurs qui s'en occupaient. Je veux dire, ce qui faisait leur prise en soin, c'était l'humanité qu'elles pouvaient mettre en place
autres,
et qu'elles pouvaient donner, l'accueil de l'autre. Tel qu'il est, sans jugement, et je te mets à l'abri et je prends soin de toi. Cette dimension de relation humaine, avis, dans 20 ans, elle existera toujours. Elle a résisté pendant des siècles, je ne vois pas comment on pourrait faire. L'humain a besoin de ce lien-là.
De l'humain, bien sûr.
Besoin de ce lien-là.
C'est clair. Vous avez autrement une actualité, des dates d'événements à venir, des projets, des choses comme ça à nous dire?
Alors l'actualité, c'est l'actualité des nouveaux référentiels. On en a parlé tout à l'heure. Hein. C'est qu'en fait, pour les aides-soignants, on a un référentiel qui vient de sortir en 2021 et pour les ambulanciers en 2022. Donc ça, c'est vraiment l'actualité. Je serais tenté de dire professionnelle et pour nous aussi pour la formation. Donc ça, c'est vraiment. Et en ce qui concerne les projets. Eh ben, en fait, les projets suivent les évolutions. Mmh. Hein. Donc, on va continuer de renforcer cet apprentissage, ce modèle pédagogique qui est très performant, qui est celui de l'apprentissage de la simulation en santé, donc avec la dotation de matériel, mais pas que, parce que toute la technicité, c'est une bonne chose, mais la technicité n'a l'intérêt que si elle est portée par une intention et une relation humaine. Et donc, on travaille aussi, là, on développe, par exemple, sur la formation des soignants, on a développé le premier secours en santé mentale, hein, qui est comme un brevet de secourisme, et ça n'a rien de péjoratif hein, quand je dis ça, l'ensemble des troubles, dirons-nous, mentaux. Et on va intégrer ça aussi à l'IFA. Voilà, donc on a des projets aussi de travailler, puisqu'on doit, on travaille sur l'interprofessionnalité, mais quand on considère, vous savez, les aidants aussi qui sont au quotidien, sont aussi des professionnels à part entière, on va travailler par exemple sur l'Institut de formation des aides-soignants, on va travailler sur le lien qu'on peut renforcer entre nos élèves aides-soignants et donc les aides-soignants demain et les aidants. C'est-à-dire, on va travailler avec un prestataire qui travaille avec, vous savez, des lunettes à visio 360 degrés. Ouais. Et comment pour justement que nos élèves aides-soignants puissent former des aidants. C'est-à-dire qu'ils vont développer leur fonction tutorale d'apprentissage, qu'on parlait tout à l'heure, cette culture, enseigner, mais enseigner avec des professionnels qui ne sont pas nécessairement reconnus dans le champ des professionnels de santé, mais qui sont reconnus fort heureusement dans le champ de leur investissement auprès des leurs, quoi. Voilà, donc ça c'est l'actualité en tout cas.
Et ben, merci à vous quatre en tout cas pour ce beau témoignage et puis ce plein d'informations. Donc pour clôturer en beauté notre dernière émission de la saison, mardi prochain, nous serons en compagnie du colonel Jean Moine, patron des sapeurs-pompiers des Côtes d'Armor. Voilà, ben, écoutez, merci encore.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée et puis à bientôt.
Merci.
Au revoir.
Le MAG emploi, Pascal Conen, sur Corbe FM.